Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30,
14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Julien Cellier.
Premier invité des auditeurs ont la parole pour dialoguer avec vous au 3210. Israël Nizan, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Le Parlement rend hommage aujourd'hui à Lucien Neuwirth, le père de la pilule. C'était il y a 50 ans, il faisait voter la légalisation de la contraception. La pilule, justement, elle reste le moyen le plus utilisé, mais de plus en plus de femmes s'en détournent, ça c'est quand même assez nouveau. Moins d'une sur deux aujourd'hui y a recours. Vous constatez concrètement ce désamour ?
Tout à fait, mais je ne parlerai pas d'un désamour. Les Françaises ont été très amoureuses de la pilule, beaucoup plus que nos voisines du nord de l'Europe et du reste des pays occidentaux, comme si la pilule avait été un marqueur de la liberté des femmes. N'oubliez pas 1967, puis juste après 1968, Mon corps est à moi. La pilule a été un marqueur de la liberté des femmes, et les Françaises l'ont souvent associée à cela. Ce qui a fait que pendant longtemps en France, nous avions une utilisation plus conséquente de la pilule que dans les pays voisins. Et là, ça s'est un tout petit peu égalisé.
Est-ce qu'il y a une défiance autour de la pilule aujourd'hui ? On se souvient de cette affaire Diane 35, c'était en 2013, quand on a parlé de risque accru d'AVC avec les pilules de 3e et 4e génération. C'est un événement qui a précipité un petit peu cette baisse du recours à la pilule ?
Je vous rappelle que Diane 35 a été remis dans les pharmacies.
Oui.
Et donc, il y avait peut-être eu une appréciation un tout petit peu catastrophiste qui n'a pas été confirmée. Diane 35, comme d'autres pilules, comme les pilules de troisième génération, sont utiles dans certaines circonstances, même si, effectivement, on a pu démontrer que on passe d'un risque extrêmement faible à un risque un peu moins faible. Mais dans certaines circonstances, on est amené à prescrire et des pilules de troisième génération et parfois même Diane 35. Donc il y a eu une crise, mais cette crise, les médecins ne l'ont pas comprise. Enfin, si un médicament est dangereux, il faut le retirer du marché et pas le dérembourser. Et donc la crise a été... Allez, disons politisé.
Politisé,
c'est vrai que
c'est
dans l'année qui a suivi.
Pourquoi vous dites ça, professeur Nizan ? Politisé ?
Ben je dis ça parce que il s'agissait de dérembourser des contraceptions chères pour rembourser d'autres choses. Je pense que là, il n'y avait pas de clarté sur l'endroit où on allait mettre l'argent qu'on économisait sur les contraceptions. C'était pas très démocratique. Donc, pour moi, c'était politisé. Et ça s'est produit, la même chose s'est produit en Angleterre, avec le même effet, c'est qu'il y a eu une augmentation des IVG l'année d'après. Pour la France, ça a été 5% d'augmentation dans un pays qui a déjà pas mal d'IVG. Donc, le corps médical n'a pas été très content de la manière dont a été menée cette affaire-là.
Restez avec nous, vous allez pouvoir dialoguer avec Dominique qui est en Seine-et-Marne, à Chanteloup-en-Brie. Bonjour Dominique.
Bonjour Christelle, bonjour à tous et bonjour.
Bienvenue.
Au professeur Nizan. Merci de prendre mon appel.
Mais je vous
bonjour.
Remercie. Alors vous avez pris la pilule pendant longtemps ?
Oui, jusqu'à à peu près 38 ans. Je prenais une pilule que je prenais tous les jours à heure fixe. Et il arrivait un moment où j'oubliais régulièrement et il n'avait plus d'efficacité. Donc j'ai arrêté pendant quelques temps. Et quand j'ai voulu recommencer à prendre la pilule, j'ai consulté un gynécologue qui m'a dit « Vous ne pouvez pas prendre le stérilet, vous avez des ovaires qui ne vont pas le supporter. La pilule, moi je vous conseille ça. » Donc j'ai fait plusieurs essais. Et à chaque fois, je trouvais qu'il y avait des inconvénients qui ne me convenaient pas. Donc, j'ai fini par laisser tomber. Et aujourd'hui, je me contente du préservatif. En fait, ce que je disais à votre standardiste, et ce sur quoi je voulais insister, c'était que, à mon sens, d'une part, les praticiens ne sont pas toujours très transparents sur les inconvénients. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'ils ne veulent pas nous effrayer ou bien parce qu'ils ont une idée bien préconçue de ce qu'on doit prendre.
Eh bien, on va poser. Voilà. Profitez-en pour poser directement la question à Israël Nizan.
Voilà,
qu'en dites-vous, professeur ?
Ce que je dis, c'est que si les praticiens faisaient la liste intégrale des diverses complications qu'on puisse produire ici ou là avec une, avec un quelconque médicament, ce serait terrible. Donc les praticiens ont l'habitude de faire une évaluation des risques et de dire dans tel ou tel cas, ben, je trouve que c'est pas une bonne idée pour vous la pilule, pour telle et telle raison. Et puis pour d'autres raisons, oui, pour vous c'est bien. Et je pense qu'au final, c'est pas aux praticiens de décider de la contraception d'une femme, ni d'un couple d'ailleurs. C'est à la femme. On est dans quelque chose qui touche à la vie intime, à la vie privée des couples. Il y a des couples qui sont très heureux avec des préservatifs. Il y a des couples qui, par contre, ne peuvent pas avoir recours à ce type de moyens. Et je crois que, véritablement, le dernier mot n'est pas au praticien, mais à la patiente.
Mais c'est... Oui, mais je suis tout
Allez-y,
à fait d'accord.
Dominique.
Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait à la fin. J'ai testé 3-4 pilules. Et à la fin, j'ai dit stop. Les inconvénients des...
C'est-à-dire, ce sont des effets secondaires ?
Tout à fait, je trouve. Alors, d'une part, soit je prenais du poids, ou bien j'avais une peau qui devenait particulièrement grasse. Donc, il y avait toujours quelque chose qui ne me convenait pas à moi. Peut-être qu'à une autre femme, ça aurait été des inconvénients mineurs. Mais comme je disais à votre standardiste, toutes les pilules, elles ont des inconvénients qui, à un moment... pour une femme donnée, vont être impossibles ou vont être absolument supportables. Et donc, c'est à la femme, comme disait le professeur Nizan à l'instant, de décider à la fin de la pilule qui lui convient, de la prendre ou de ne pas la prendre, et de choisir de son mode de contraception. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi le préservatif
ajouter...
qui me convient tout à fait.
Oui.
Je vous en prie, professeur.
Je voudrais ajouter que les pilules... sont un peu connus pour leurs inconvénients, mais on ne parle jamais des bénéfices associés de la pilule, c'est-à-dire de la contraception orale. Il y a des femmes qui ont des règles moins douloureuses, il y a des femmes qui ont moins de règles, il y a des femmes qui souhaitent ne pas avoir de règles du tout, ce qui est possible avec la pilule. Et ce qu'on ne dit jamais, et qui est extrêmement important, c'est que les femmes sous pilule ont moins de cancer du côlon et moins de cancer de l'ovaire. Donc, je veux bien qu'on ne voit que les inconvénients des pilules, mais les pilules ont aussi des bénéfices secondaires, ne serait-ce que le bénéfice de ne pas être enceinte quand on ne le souhaite pas, mais surtout ont des bénéfices secondaires qui sont un peu tus dans les discussions.
Professeur, est-ce que vous pensez que cette crainte des effets secondaires, de risques sur la santé, c'est une peur qui devient un petit peu irrationnelle ? Est-ce qu'on assiste à un phénomène de défiance, un petit peu comme vis-à-vis de la vaccination ?
Oui, absolument. Il y a une défiance assez ancienne, bien antérieure à ce que vous avez appelé la crise des pilules, une défiance vis-à-vis des hormones d'une manière générale. Ce que le grand public oublie, c'est que sans hormones, on est mort dans la minute. Nous avons tous besoin d'hormones et nous avons beaucoup d'hormones qui circulent dans notre corps et qui sont totalement indispensables. Mais les hormones ont mauvaise presse. Je vois des mamans qui viennent avec leur fille en début de vie sexuelle et qui disent « Docteur, surtout pas d'hormones ». Et donc, les hormones sont vécues comme des dangers alors qu'elles font partie intégrante de notre corps. Il y a, oui, une défiance à l'égard des hormones, comme il y a une défiance irrationnelle à l'égard des vaccins. Et ça me fait penser à la phrase de l'Académie de médecine « Si vous n'aimez pas les vaccins, essayez donc les maladies ». Les pilules sont parmi les médicaments qui ont été les plus testés dans le monde et à très grande échelle. Nous connaissons au millimètre près leurs inconvénients. C'est donc des médicaments, comme tout médicament efficace, il y a des effets adverses qui sont extrêmement faibles avec les pilules, il faut bien le rappeler. Et c'est pour ça que nous souhaitons quand même que ça reste une prescription médicale.
Bon, merci Dominique, vous restez avec nous. Professeur Nizan va poursuivre cette très intéressante conversation dans un instant avec Emmanuel et Laurence. A tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Julien Cellier.
Et le Parlement rend hommage aujourd'hui à Lucien Neuwirth, surnommé le père de la pilule, puisqu'il y a 50 ans, il faisait voter la légalisation de la contraception. À cette occasion, vous pouvez dialoguer au 3210 avec le gynécologue Israël Nizan. Professeur, on parlait tout à l'heure de la crise Diane 35 et de ses effets pervers. Est-ce qu'en même temps, cette crise n'a pas eu le mérite de permettre une certaine prise de responsabilité des femmes? En clair, on ne prend plus la pilule par habitude, mais on redécouvre un petit peu le geste médical.
Elle a eu deux mérites, cette crise, parce qu'il y a toujours des bénéfices à une crise. Le premier, c'est ce que vous venez de dire, c'est de rappeler que la pilule est un médicament, qu'elle a des indications, des contre-indications et des complications possibles, même si elles sont rares. Mais le deuxième effet très favorable, c'est que on a orienté un petit peu plus les femmes, tout le monde, les femmes également, vers ce qu'on appelle les contraceptions de longue durée. Oui. Qu'on n'oublie pas, une femme qui sort avec un stérilet ou avec un implant de chez son gynécologue ou de chez son médecin ne va pas l'oublier et donc ne risque pas toutes les grossesses non prévues qui viennent de l'oubli de pilule.
Eh ben on va prendre Emmanuel qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Vous avez renoncé à la pilule ?
Tout à fait, oui. Oui, je l'ai prise pendant 10 ans. Et en fait, avec justement ces polémiques autour des hormones, j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Mmh. Et honnêtement, enfin, ma vie a changé depuis que je l'ai arrêtée. Parce que, si vous voulez, j'avais quelques effets secondaires, parce que, en fait, je m'en rendais plus compte. Mais j'étais très fatiguée, j'étais assez dépressive, j'avais des sautes d'humeur, et je pensais que c'était mon caractère, en fait. Et quand j'ai arrêté, honnêtement, je me suis sentie mais beaucoup mieux dans mes baskets.
Mmh, mmh. Et donc, votre médecin, vous n'avez pas parlé de ça ?
Non, pas du tout.
Il a mis longtemps à se rendre compte que ça pouvait être ça, le problème ?
Disons que j'en ai pas vraiment parlé en fait, c'était ma première pilule, j'avais 17 ans, c'est en plus un âge où on change un petit peu au niveau du caractère, donc je me suis dit c'était ma personnalité, donc je me suis pas du tout rendu compte, je pensais pas du tout que c'était la pilule.
Mmh. Et donc qu'avez-vous fait ?
Donc j'ai arrêté et pour justement prendre un stérilet.
Oui.
Voilà, que j'ai porté pendant un an et demi, et malheureusement j'ai dû arrêter parce que j'avais des problèmes de cystite à répétition.
Mmh.
Voilà.
Et votre médecin n'a pas hésité, parce qu'on dit souvent, professeur Nizan, que le stérilet, on le prescrit aux femmes qui ont déjà eu des enfants.
Il n'y a pas de consigne de cet ordre-là, mais c'est vrai que vous imaginez bien que pour mettre un stérilet, il faut mettre la femme en position gynécologique.
Oui.
Or, à 15 ans, ceci peut être insurmontable et fort mal vécu. Donc, je ne suis pas favorable à ce que, alors qu'on a des contraceptions de longue durée qui ne nécessitent pas de se déshabiller, mettre un implant sous la peau du bras, ça ne nécessite pas de se déshabiller. Je préfère les contraceptions de longue durée de ce type-là pour la première partie de la vie sexuelle. Et une fois qu'on est habitué, que ça pose plus de problèmes, et d'ailleurs qu'on a un compagnon à peu près stable et qu'on vit une histoire plutôt stable, on peut passer au stérilet. Il n'y a aucun gynécologue aujourd'hui qui est réticent à cela.
Il y a beaucoup de femmes cadres, notamment d'après les chiffres de l'INED, qui s'est penchée sur la question, qui ont choisi cette option du stérilet. Est-ce que c'est encore réservé à certaines catégories socioprofessionnelles ? C'est assez intéressant, cette inégalité.
L'inégalité porte surtout sur la qualité de l'information et sur la possibilité d'y avoir recours. C'est vrai que les femmes qui n'ont pas accès aux informations sophistiquées peuvent se retrouver très désarçonnées quand on leur dit à la radio tous les jours que la pilule, ça peut tuer. C'est ces femmes-là qui ont eu une augmentation des IVG après la crise de la pilule. Les femmes qui ont accès soit à un copain médecin, soit à leur médecin plus facilement, soit même à une capacité de recherche documentaire personnelle, ces femmes-là ont choisi assez rapidement et plus rapidement que prévu les dispositifs intra-utérins pour éviter ce que tout à l'heure notre auditrice le disait, c'est d'avoir à prendre quelque chose tous les jours.
Mmh. Emmanuel, est-ce que vous utilisez encore un contraceptif ?
Plus du tout, non.
Ah, plus du tout. Pour quelle raison ? Si c'est pas trop intime, évidemment.
Non, il n'y a aucun problème. En fait, si vous voulez, les hormones, je ne supporte pas. Le stérilet, j'ai des problèmes de cystite, donc j'ai dû l'enlever. Et voilà, et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien qui me correspond. Et tout simplement, les moyens de contraception que j'utilise, c'est le retrait, tout simplement. Oui.
Alors ça, professeur Nizan, c'est risqué quand même, non ?
C'est ce qu'on appelle une contraception non médicalisée. Mmh. Et les risques de grossesse, cette méthode est acceptable si on accepte l'idée qu'une grossesse survienne de manière non prévue. Parce que si avec les moyens d'immédicaliser, on est au-delà de 99% d'efficacité, sauf oubli de pilule, mais avec les stérilés, on est à 99,5%. Avec les moyens non médicalisés, comme le retrait, par exemple, oui, on tourne autour de 75-80% d'efficacité. Mmh. Ce qui veut dire que le risque de grossesse est notable. C'est totalement acceptable, ce que vient de dire notre auditrice, à condition qu'on ne se retrouve pas à faire une IVG pour une grossesse non prévue, ce qui est quand même pas une solution. L'IVG n'est pas une contraception.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à des femmes comme Emmanuel qui, pour le coup, par exemple, ne voudraient absolument pas avoir d'enfants et à qui les méthodes déjà essayées ne correspondent pas ?
Alors, tout dépend de son âge, tout dépend de sa situation, tout dépend de sa situation médicale. Mais c'est vrai qu'il y a une contraception orale qui est à base de progestérone exclusivement, c'est-à-dire ne contenant pas d'œstrogène et donc sans effet perceptible par la plupart des femmes. J'aurais tendance à essayer chez elles une contraception à la progestérone. C'est donc pas une pilule traditionnelle qui contient d'œstrogène et de la progestérone. De même que j'aurais tendance à dire que certaines formes de contraception, par exemple par les anneaux, l'anneau vaginal ou par les teintes, devrait être essayée parce qu'elle pourrait très bien mieux supporter des contraceptions sous une autre forme que la pilule proprement dite.
Ben voilà, Emmanuel, ça vous offre de nouvelles pistes.
Super.
Merci d'avoir témoigné sur RTL.
Bonne journée.
Merci, bonne journée. On accueille un homme quand même pour une fois. Yves, bonjour, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour.
Alors, racontez-nous ce qui vous est arrivé à vous et à votre ancienne conjointe.
Voilà, elle avait pris très tôt, à l'âge de 15 ans, elle avait commencé à prendre la pilule. Puis, je dirais, on s'est connus à l'âge de 20 ans. Et puis, entre 35 et 45, on a voulu avoir des enfants. Et elle a malheureusement fait deux fausses couches. Et on a fait tout un tas d'examens qui avaient été demandés par le médecin. Et d'après les médecins, ça viendrait éventuellement du fait que elle avait pris la pilule beaucoup, extrêmement tôt, et c'est ce qui aurait totalement détraqué son système de reproduction.
Est-ce que c'est possible, ça, professeur Nizan ?
Non, N-O-N avec des grandes majuscules.
Ah, allô.
Application ni. Il n'y a jamais eu aucune publication ni aucune observation médicale permettant d'impliquer la prise d'une pilule, fût-elle longue, dans un problème de fertilité ultérieure. Donc je pense que ce médecin s'est trompé. Et s'il ne s'est pas trompé, qu'il nous dise d'où il sort ce genre d'information.
Donc vous voyez, Yves, c'est quand même important de savoir qu'à un moment, vous avez été mal dirigé, on vous a raconté une histoire fausse.
Oui. Effectivement, mais bon, a priori, on a quand même fait tout un tas d'examens, aussi bien de mon côté que de son côté, hein. Donc, je pense pas non plus que le médecin de l'époque nous a quand même aussi raconté des histoires, hein. Enfin, je pense pas non plus. Bon.
Professeur Nizan, est-ce que ce sont des croyances, entre guillemets, même dans le secteur médical, qui existaient avant et qui n'existent plus ?
Oh, les croyances, je vais vous dire, personne n'est à l'abri de croyances. Mais il faut dire à notre auditeur qu'au-delà de 35 ans, dans certaines circonstances, en particulier dans certaines situations génétiques, certaines femmes ont moins d'ovules fécondables ou ils sont fécondables, mais après la fécondation, il y a un défaut de l'embryon et ça entraîne des fausses couches. Les 35 ans, ça peut expliquer les fausses couches. Ouais. La prise antérieure de pilule, non. Et je n'ai jamais rien lu de tel. Et il n'y a pas d'informations médicales, scientifiques, qui permettent de dire qu'un problème d'infertilité est lié à la prise de contraception orale. Donc peut-être que le médecin n'a pas voulu expliquer les choses. Encore une fois, je vous dis, quand on affirme des choses, on doit avoir des sources scientifiques. Il n'y a aucune source scientifique qui impute une quelconque... Qu'il y ait des complications rares avec la pilule, genre AVC ou thrombose, c'est extrêmement rare, mais ça on le sait. Personne n'a parlé d'infertilité après une prise de pilule.
Eh bien, il fallait que ce fût dit. Merci Yves d'avoir appelé. Merci. Bonne journée.
Merci.
On accueille Laurence qui est à Épinal. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour, la maison RTL.
Bonjour Laurence.
Soyez la bienvenue, vous n'avez jamais pris la pilule?
Non, je n'ai jamais pris la pilule, non.
Pour quelle raison?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon premier enfant, je n'avais jamais pris la pilule, je l'ai eu à 19 ans, le deuxième à 20 ans. Et mon médecin, c'est un médecin traitant, m'a proposé, il m'a dit, écoute, tu as trois solutions, tu as la pilule, le stérilet ou une injection tous les 3 mois. Moi, la pilule, j'avais toujours la hantise de l'oublier. Le stérilet ne m'inspirait pas spécialement confiance. Donc, je me suis dit, une petite injection de 3 millilitres de produit en intramusculaire, tous les 3 mois. J'ai opté pour ça. J'ai pris cette solution-là pendant plus de 30 ans. Et je n'ai jamais eu aucun problème.
Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, professeur Nizan, mais c'est extrêmement efficace.
Je vais vous dire pourquoi on n'en parle pas. C'est que ça a bien réussi à notre auditrice, mais il y a beaucoup de femmes qui, à peine l'injection faite, se mettent à saigner. Et ces saignements sont incoercibles. D'accord. Car une fois que le produit est injecté, c'est un produit retard. Et donc, je n'aime pas jouer à la marelle avec de la contraception. Donc, c'est en plus, il y a des effets parfois métaboliques délétères, d'hypertension et de métabolisme des glucides. Donc non, je ne valide pas cette méthode. Il y en a bien d'autres qui sont meilleures.
Professeur Nizan, dernière question. Vous parliez tout à l'heure de l'implant qui est utilisé par 4% des femmes seulement. 4% des femmes aussi utilisent la stérilisation contraceptive. Ça reste des méthodes marginales. Pourquoi? Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'il y a un tabou? Est-ce qu'il y a des risques?
Alors pour l'implant contraceptif, il y a une femme sur 7 qui demande son retrait 3 mois après la pause, parce qu'il y a des saignements, parce qu'il y a de l'intolérance. Donc c'est une méthode qui est très utilisée pour les toutes petites jeunes qui sont en début de vie sexuelle et qui ont besoin de la confidentialité totale de leur sexualité. Et pour la stérilisation, je trouve qu'il y a une augmentation des femmes qui souhaitent une stérilisation dans notre pays. La stérilisation avait lieu autrefois par ligature de trompe et ce geste avait des complications et a eu des complications graves une à deux fois par an. On perdait une femme d'un accident de stérilisation. Quand il y a eu la méthode Échour, ce petit ressort que l'on met dans les trompes, nous avons tous été très contents et ça a augmenté considérablement les demandes de stérilisation définitive. On est en train de voir que certaines femmes, un petit pourcentage de femmes de l'ordre de 1% ont des réactions à cet implant qui sont pas très sympas. Et donc c'est vrai que toute la profession a freiné brusquement, alors qu'on en mettait près de 30 000 par an. On a freiné sur l'implant définitif.
Merci beaucoup, merci professeur Nizan d'avoir dialogué avec nos auditeurs et nos auditrices. On a eu Laurence, on a eu Yves, on a eu Emmanuel.
Et Dominique.
Voilà, on fait belle journée à vous, merci professeur, à bientôt. On fait une petite pause,
merci.
Et puis dans quelques minutes, on va se demander comment rendre nos véhicules plus sûrs. On parle de sécurité routière avec vous au 3210, à tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière,
Julien Cellier.
Et avant d'évoquer avec vous au 3210 la façon de rendre nos voitures plus sûres au moment où 8 ministres européens saisissent Bruxelles, on va revenir un instant sur l'affaire Théo, l'avocat de... Alors on va pas revenir sur l'affaire Théo puisque l'auditeur qui était en ligne vient tout juste de raccrocher.
Pascal,
on va le rappeler, Pascal, qui habite à Villepinte en Seine-Saint-Denis, non loin justement de d'Aulnay-sous-Bois. Et du coup, est-ce qu'il est là, Pascal? Je fais signe à Grégory Caradoni, notre réalisateur. Non, il n'est pas là, Pascal. Alors ce que je propose, c'est qu'on passe à ce sujet automobile. Il est là, Pascal.
Voilà.
Il est là, Pascal.
On a le temps de le rappeler.
Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour Christelle, bonjour Julien.
On a cru qu'on n'arriverait pas à vous avoir. Finalement, vous êtes là, tout va bien. Dites-nous Pascal, vous souhaitiez revenir sur l'affaire Théo. Maître Dupond-Moretti, l'avocat de la victime, était notre invité à 12h50 pour réagir au dernier élément de l'affaire, ce rapport dont RTL révélait l'existence ce matin, un rapport de la police des polices qui n'est pas d'accord avec la juge et qui estime que le policier mis en cause n'a pas voulu violer Théo. Vous vouliez réagir à ce rapport?
Ah bah déjà moi, ce que pense l'IGPN, c'est scandaleux parce que bon, le pauvre gamin, déjà je voudrais saluer Maître Dupond-Moretti qui prend parti pour ce petit jeune. Franchement, c'est un bon avocat et super. Par contre, maintenant, bon, le petit gars a eu une perforation, je pense, de 10 cm avec incapacité de travail de 60 jours. Donc là, franchement, je pense le rapport du GPN est plus que scandaleux. Mmh. Maintenant, moi, j'habite Villepinte. Donc d'un côté, ce grand bedote, les armes et la drogue. De l'autre côté, Tremblay, le caillassage et le brûlage de la CIF des chauffeurs de bus. Donc ce qui s'est passé là vis-à-vis de ce petit jeune, c'est vraiment comment plus que dégueulasse et scandaleux quoi. Maintenant, moi hier, je suis passé dans mon quartier, il était 18h15, 18h30, notamment au 4 tours et devant le McDonald's de Tremblay en France. C'était bourré déjà ce temps-là de camionnettes de CRS. Mmh. Donc là, je pense que les jeunes qui vont apprendre que l'IGPN, en l'occurrence, le policier n'a pas voulu violer, c'est pratiquement c'est comme si que le gars n'avait rien fait. Là, il va falloir mettre les chars et l'armée à Villepinte et Tremblay aux alentours.
Vous avez clairement peur d'un embrasement. Vous avez clairement peur que ça s'embrase.
Ah bah moi je mets ma voiture le soir, monsieur, à Villepinte, ainsi que mon fils. Le matin, on ne sait pas si notre véhicule va être anti ou pas. Hein.
Mais là, c'est une tension qui remonte à une semaine ou c'est finalement votre quotidien et il y a juste un peu plus de tension en ce moment?
Ah bah déjà, il y a eu l'affaire du petit Traoré, là, qui avait été pareil, oui. Tué, ceci, cela.
C'était l'été dernier, oui.
Voilà, il manque Adama Traoré, voilà, chercher son prénom. Oui. Voilà, ceci, cela. Bon, après, moi, j'ai vécu aussi ce qui s'est passé avec les deux petits jeunes dans le transfo de Clichy-sous-Bois
en 2005.
Mmh. Ah, donc voilà, mais là je pense que ce qu'a dit Madame Duflo, elle a entièrement raison. Il y a une tension de la police.
Une police à bout de nerfs, une jeunesse à bout de patience.
Exactement, exactement. Mais là, bon, là, faut trouver, prendre parti, pour ce petit jeune-là. Mmh. Hein, puis à ce moment-là, les jeunes, ils ont qu'à s'en prendre à la police carrément, mais pas nous brûler nous les voitures. Un pauvre citoyen qui travaillons toute notre vie pour se payer un véhicule et mener une vie correcte et normale. Mmh. Hein, je vous dis, monsieur, moi le soir, je mets mon véhicule chez moi. Le matin, je ne sais pas s'il va être entier. Hein.
Non, mais c'est pour ça aussi que Théo a lancé un appel au calme dans son quartier. On a beaucoup entendu les habitants de son quartier dire la même chose que vous, Pascal, c'est-à-dire on vit là et on n'a pas envie que notre voiture brûle. Voilà, c'est pas à nous de payer les pots cassés.
Oui.
C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Voilà, moi je suis originaire du 50, hein, de la Manche. Là, bon, je vis dans le 9-3, c'est carrément plus que l'OL20 et je ne vous apprends rien. Mais là, les jeunes, ils vont tout casser. Là, c'est clair.
Pascal, justement, revenons sur ces tensions. On rappelle qu'il y a eu 28 personnes interpellées hier soir en Seine-Saint-Denis pour des jets de projectiles, pour des départs d'incendie. Il y a eu une réunion pour essayer de calmer cette tension entre les policiers de d'Aulnay-sous-Bois et des associations de maires de famille du quartier. Les maires de famille du quartier disent qu'il faut enlever les camions de CRS qui stationnent tous les soirs dans nos cités, car ça attise la tension et ça ne fait que renforcer les possibilités d'embrasement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces mamans d'Aulnay-sous-Bois?
Retirer. Moi, je dirais conditionnel, hein, comme hier. En plus, c'est une amie d'une amie, cette personne-là, qui est passée sur, c'est pas sur RTL, ça doit être sur FR3, je pense, qui s'appelle Madame Laetitia de l'association Zonzon 93, je sais pas si vous avez vu, qui donne plus ou moins raison, bon, c'est vrai, à la famille du petit Traoré et tout ça, et qui est entièrement pour et soutient cette famille-là, ce petit jeune, et qui est contre la police. Maintenant, retirer les CRS, je pense pas que ça sera une...
Mais est-ce que la présence visible des CRS, en clair, attise les tensions? C'est ce que vous constatez.
Déjà, la présence, ça rassure les habitants, les citoyens, d'une part. Mais c'est sûr que ça attise la flamme, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais tant que la tension ne sera pas redescendue, et je pense que c'est pas demain la veille, hein, surtout ce qu'on vient d'apprendre ce matin avec l'IGPN, je pense que déjà les CRS, ça attise les jeunes. Ça c'est clair.
Je voudrais juste ajouter quelque chose, Pascal. Il y a ce dont on a parlé par rapport à l'IGPN, mais il y a ce qu'a dit et ce qu'a fait le juge, hein, depuis le début, la juge qui est en charge du dossier, qui, elle, retient le viol, hein, et qui retient donc l'intention.
Oui, mais pas, contrairement d'accord avec le rapport d'IGPN, si
voilà, exactement. Et c'est elle qui décide, de toute manière.
Bien sûr.
Voilà, il fallait que ce fût dit quand même. Merci beaucoup, Pascal. Merci de nous avoir appelés. À bientôt.
Merci, au revoir.
Allez, une pause et puis dans un instant, on va enfin parler automobile, comme promis, avec Laurent Eken, notre invité. Il est président du think tank Automobilité et Avenir. Avec lui, on va essayer de comprendre comment on peut rendre nos véhicules plus sûrs. On a l'impression qu'on a tout tenté en termes de sécurité routière. Eh bien, il y a 8 ministres européens qui appellent Bruxelles à imposer de nouvelles normes sur nos véhicules.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Julien Cellier.
Deuxième invité des auditeurs ont la parole, donc Laurent Eken, président du groupe de réflexion Automobilité et Avenir. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. En matière de sécurité routière, on a l'impression d'avoir à peu près tout essayé. D'ailleurs, la mortalité au volant a augmenté encore de 0,2% l'an passé en France. Et 8 ministres européens refusent cette fatalité, dont notre secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis. Il lance un appel à Bruxelles pour imposer de nouveaux standards de sécurité des véhicules. L'objectif de ces 8 pays, c'est de diviser par 2 d'ici 2020 le nombre de décès sur les routes. Ça représente à peu près 26 000 personnes chaque année en Europe. Pourquoi, Laurent Hecquet, mettons-nous autant de temps pour rendre nos véhicules plus sûrs ?
Je crois qu'il n'y a pas de perte de temps parce que la sécurité routière, il faut rappeler que c'est un triptyque entre la route, le véhicule et le comportement. Et qu'on peut dire que depuis les années 70, il y a eu énormément d'améliorations sur ces trois vecteurs. Et qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que si on avait uniquement une action sur le comportement avec les véhicules de l'époque et les routes de l'époque, on n'aurait pas les résultats que nous avons aujourd'hui. Mm-hmm. Donc les véhicules ont quand même évolué.
Oui.
Mais cette déclaration ou cette demande en fait formulée par les pays démontre en tout cas que la sécurité routière marque le pas. Ça veut dire que le tout répressif n'agit plus et qu'il faut trouver d'autres gisements de sécurité routière. Alors cet appel n'est pas inintéressant. Ceci dit, lorsqu'on dit que l'on va diviser par deux d'ici 2020, je crois quand même qu'il faut relativiser parce qu'on sait que...
C'est très ambitieux selon vous.
Oui, parce que c'était extrêmement compliqué d'avoir une réglementation européenne d'une part. Mmh. Et deuxièmement, si on a de la réglementation sur des nouveaux véhicules, il va falloir que ces nouveaux véhicules soient produits.
Et, oui.
Et on sait aujourd'hui qu'on a un parc, par exemple en France, sur les véhicules particuliers, qui est de l'ordre de 32 à 33 millions, avec un âge moyen de 8 ans et demi. Mmh. Et il faut à peu près 15 à 20 ans pour renouveler un parc. Donc ce qui veut dire que si on a une nouvelle réglementation, elle portera ses fruits lorsqu'on aura un nouveau parc intégralement concerné par cette réglementation.
Mmh.
Mais somme toute, c'est quand même intéressant de se poser des questions sur des nouveaux gisements et la sécurité routière sur le véhicule et la nouvelle technologie est une réelle piste.
Alors on va venir dans un instant sur les pistes de progrès, mais tout d'abord, pour bien comprendre, vous nous disiez, c'est compliqué d'avoir une réglementation européenne. La Commission à Bruxelles, elle est la seule à pouvoir imposer ces nouveaux standards de sécurité aux constructeurs. Pourquoi c'est si compliqué ? Qu'est-ce qui rend la tâche ardue ?
Parce que c'est quand même l'administration et que ça doit effectivement trouver un consensus entre l'ensemble des pays membres.
Mmh.
Donc, par exemple, on a l'exemple pour un système d'e-call qui est normalement un système d'appel qui doit se déclencher lorsqu'il y a un accident. Ça a mis des décennies avant de voir le jour. Ça va voir le jour maintenant. Mais je serais tenté de dire qu'à la limite que la technologie a peut-être déjà dépassé cette réglementation. Donc,
justement, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ces technologies sont prêtes aujourd'hui ? Finalement, on n'attend plus que le feu vert ou est-ce que les constructeurs ne sont pas prêts ?
Si, je crois que ça va très très vite et notamment aujourd'hui, les ingrédients sont réunis pour accélérer la recherche technologique avec ce grand thème de ce que l'on parle notamment du véhicule autonome. Alors, le véhicule autonome, c'est un fantasme. En tout cas, ça permet de favoriser la recherche et aujourd'hui, si le véhicule ne sera pas tout de suite 100% autonome, en tout cas, il y a des nouvelles fonctionnalités d'autonomisation ou en tout cas de sécurité active qui vont être mises sur les véhicules, sur les nouveaux véhicules, mais qui pourront aussi facilement être adaptées sur les véhicules anciens. Parce qu'aujourd'hui, on peut facilement mettre en place des capteurs qui ne coûtent plus rien et puis mettre à jour les logiciels des voitures. Donc, on a de réels progrès qui vont de l'avant avant même d'attendre la réglementation.
Par exemple, un freinage automatique en cas de collision proche, ça c'est l'avenir ?
Ah oui, ça c'est effectivement extrêmement intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, l'accidentalité, c'est malheureusement une perte de contrôle ou une inattention à un moment donné. Donc tout ce qui peut aider l'usager, le conducteur, à en tout cas améliorer la sécurité dans une situation d'urgence, est quelque chose d'extrêmement intéressant.
Mmh.
Maintenant, il y a d'autres systèmes, des systèmes d'information, des systèmes d'attention. Je pense que je pourrais peut-être en parler tout à l'heure, mais
on
dit aujourd'hui... Qu'on a besoin d'agir sur un certain nombre de vecteurs au sein même, à l'intérieur même du véhicule.
On va y venir, mais d'abord, Laurent Hecquet, je vous présente Fabien. Il est chauffeur routier, il nous appelle de Saône-et-Loire. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour aux auditeurs d'APL.
Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
Alors, je suis dans ma 28e année au niveau du transport. J'ai fait du national, de l'international. On pourrait dire que les constructeurs ont fait d'énormes progrès, c'est vrai, mais seulement... au niveau de la cabine, à savoir qu'on n'a plus guère d'angle mort. C'est vrai qu'on a les rétroviseurs de pare-brise, on a le rétroviseur côté passager, on a des rétroviseurs au-dessus des rétroviseurs normaux en angle mort. Seulement, le problème, c'est à l'arrière. À l'arrière, on ne voit rien du tout.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, on n'a pas de... Alors qu'il existe à l'heure actuelle des solutions, elles sont mises en fonction dans diverses entreprises, moi, pas dans la mienne, mais je veux dire...
Quelles sont ces solutions, par exemple ?
Bah, la solution, si vous voulez, c'est que moi, j'ai des collègues qui travaillent pour la communauté de communes. Les camions poubelles, entre autres, qui passent dans les rues là pour ramasser, ils sont pourvus de caméras à l'arrière. Nous, on aurait ça à l'arrière. Tous les camions seraient équipés de ça à l'arrière parce que ça reste une option. À l'heure actuelle, c'est juste une option. Donc, nos patrons ne sont pas obligés de les installer. Mais c'est fort dommage parce que j'ai été amené à monter dans la cabine d'un de mes collègues. Je ne dirais pas qu'on a une vision à 360 degrés, mais presque.
Ça change vraiment la vie quand vous conduisez.
C'est clair. Je veux dire, vous avez un moniteur sur le tableau de bord, vous avez vos rétroviseurs de chaque côté. Ouais. C'est une vision. C'est le top. Franchement, c'est le top.
Pour vous, c'est primordial, Fabien, d'agir notamment sur les poids lourds. On rappelle qu'en Europe, c'est 5% du trafic, mais 15% des accidents graves. Pour vous, c'est là que l'effort doit être mis en priorité?
Oui, je pense, parce que d'autant plus que ça existe déjà. Ce serait juste à la limite une sorte d'obligation au niveau des. Ils devraient sortir de série. Quand vous voyez les véhicules légers, à l'heure actuelle, ça sort quasiment de série. Les marches arrière de recul, quoi. Voilà, c'est. Parce que nous, on ne voit rien. Il suffit que quelqu'un se mette à l'arrière du camion, il se met hors champ des rétroviseurs, on ne le voit pas.
Donc il faudrait imposer une norme, Laurent Hecquet, pour les caméras à l'arrière.
Oui. Alors, est-ce qu'on a besoin de normes?
Mais non, mais ça obligerait du coup les constructeurs à les mettre systématiquement. Et voilà, ouais, c'est ça.
Voilà. C'est le but effectivement d'une réglementation. Maintenant, je m'interroge, mais non pas que l'idée n'est pas intéressante, mais en tant que telle, est-ce que l'accidentalité des poids lourds résulte dans leur marche arrière? J'en suis pas intimement convaincu, parce que là, c'est plutôt sur une circulation et sur le partage de la route avec des usagers plus vulnérables, que ce soit les deux roues motorisées ou les voitures. Mmh. Mais en l'occurrence, c'est une bonne idée, mais c'est la démonstration que s'il n'y a pas une réglementation, on ne le met pas forcément en place, c'est vrai. Donc sa réglementation permet des marches de progrès, mais encore une fois, il faut du temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour que ça arrive véritablement sur l'intégralité du parc.
Mais Laurent Hecquet, Fabien le disait très bien, par exemple ces caméras, elles sont de série sur certains modèles, mais pas sur tous. Est-ce que finalement les constructeurs concentrent leurs efforts sur la technologie des voitures et non pas sur celle des camions, parce que ce n'est pas rentable?
Non, je ne le pense pas. Je pense que le transport routier aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement important et de plus en plus important, parce qu'on voit bien qu'on a une augmentation des marchandises et des kilomètres parcourus avec les camions. Donc il faut attacher une importance considérable. Mais les constructeurs de véhicules particuliers ne sont pas les mêmes groupes que les constructeurs de camions. Donc c'est une autre stratégie. Et je pense que là, il faudrait poser la question aux transporteurs routiers en disant, est-ce que lorsqu'ils investissent dans des camions, ils sont prêts à acheter des véhicules qui supporte toute la technologie. Et je crois finalement que ce genre de technologie aujourd'hui ne coûte plus grand-chose. Donc je pense que c'est peut-être le fait de ne pas en parler, mais je ne pense pas qu'il y ait un frein pour investir dans ce genre de technologie. Encore une fois, on voit bien que les équipementiers ont fait tellement d'efforts aujourd'hui que les capteurs, les mises à jour logicielles ou même des capteurs dans le recul, sans parler de caméras, peuvent être parfaitement mis en place en deuxième monte, donc sur un véhicule qui n'est pas un véhicule neuf, et ce n'est pas des surcoûts énormes.
Fabien, est-ce que dans votre camion, il y a des capteurs pour lutter contre l'endormissement ?
Non. On n'a pas de capteurs pour lutter contre l'endormissement. En revanche, on a, parce que monsieur parlait des capteurs, là, c'est quand on est amené, admettons, à reculer. Et puis, c'est vrai que la caméra, elle est utile quand on est dans les entreprises. Mais je veux dire, sur la route aussi, il nous arrive, on arrive à un feu, il y a un problème, on est obligé de reculer. On a les bips de recul. Mais dites-vous bien que le bip de recul, si toutefois vous avez je dirais ça comme ça, mais c'est pas une critique, c'est pas péjoratif. Mais vous avez un petit jeune qui passe derrière le camion et puis il a, comme on le voit tous les jours, il a les oreillettes avec son téléphone, il vous entend pas, le gamin. Et nous, on le voit pas.
Et oui, bien sûr.
Mais quand je dis un bip, c'est un bip aussi qui permet d'informer le conducteur lui-même, c'est-à-dire le bip qui remonte aussi dans la cabine. Par contre, vous venez de poser une question très importante pour l'endormissement, tant dans les camions que dans les véhicules. Je crois que la somnolence au volant est un gisement important de sécurité routière, sous-estimé aujourd'hui même par les autorités.
C'est un des tout premiers facteurs d'accident.
Oui, et je crois que là, l'endormissement peut prendre n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée. Et je crois que là, on a une réelle source de progrès à mettre en place. Alors, il y a des technologies qui arrivent, mais elles arrivent très lentement. Et là, s'il y a un vrai gisement de progrès, il est là.
Vous restez avec nous, Laurent Hecquet, Fabien. Également, on accueille Noël au 3210, qui lui aussi est chauffeur routier. Bonjour Noël.
Oui, bonjour.
Bonjour,
est-ce que
bienvenue.
Vous aussi, vous réclamez davantage de technologie dans votre camion?
Ah non, moi j'en ai déjà énormément. J'ai l'interdistance entre véhicules, j'ai le système pour sommeil qui sonne dans le camion quand je touche la ligne blanche ou des choses comme ça.
Ah, vous avez ça, vous? Oui.
Ouais, moi j'ai ça, j'ai la technologie. J'ai même le radar, moi je suis en camion remorque. J'ai même le radar qui me sert à reculer dans les endroits. Mais c'est tellement bourré d'électronique, le problème c'est qu'il y a un défaut sur ces systèmes-là. C'est-à-dire en hiver, ça marche une fois sur deux à cause du froid. Ça, c'est pas au top.
Ça, c'est un problème quand même.
C'est pas le top actuellement, l'électronique à bord des camions. C'est qu'il y a tellement de vibrations dans ces camions-là que les systèmes de soudure lâchent au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on est tout le temps en réparation où on a un problème. Et deuxièmement, moi je dirais la chose, c'est la conduite des gens qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables sur la route. Ils ne sont pas responsables. Ils prennent leur voiture, ils démarrent, ils foncent. Voilà le principe. Je suis sur la route, je fais ce que je veux, la route elle est à moi.
Vous voulez dire que, en fait, il faudrait... Les garde-fous, ça ne suffira pas si on tombe sur quelqu'un qui ne sait pas respecter les règles.
Voilà, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a le trois quarts des gens qui conduisent. Ils ont un permis de voiture, ils le passent jusqu'à 60 ans, même plus. C'est-à-dire sans visite médicale, sans revision du code de la route, sans revoir certaines règles de sécurité. Ils conduisent. Aujourd'hui, moi, j'estime que le permis devrait être valable tous les 3 ans repassé pour tout le monde. Que ça soit voiture, moto, camion, nous, camion, chauffeur, camion, on est tous les 5 ans, comme les chauffeurs de car, tous les 5 ans, on a une formation continue obligatoire. C'est la loi.
Repasser son permis tous les 3 ans, Laurent Hecquet, ça peut être une piste ou pas?
Oui, ben, en fait, si on émet des pistes, il faut qu'il y ait une pleine acceptabilité sociale.
Oui, alors, c'est ce que j'allais dire, là. C'est trop impopulaire, là.
Elle n'est pas nouvelle, mais surtout, elle n'est pas en lien avec le rapport aujourd'hui qui était sur la technologie.
Oui.
Mais
c'est en
une
revanche...
mesure parmi tant d'autres. Et je pense que la technologie doit être encore développée parce qu'il y a des systèmes d'information sur les limitations de vitesse. Il y a un projet de système speed, en fait, ce qu'on appelle intelligente speed assistance, qui est un système ISA ou LAVIA, de pouvoir effectivement intervenir sur le moteur en fonction de la réglementation de vitesse. Ça nécessite aussi d'avoir des cartographies très proches, enfin très propres au niveau géographique. Et il y a justement au niveau de l'Europe une directive européenne INSPIR qui est là pour s'assurer que chaque pays puisse disposer dans 2 à 3 ans d'un système performant sur les limitations de vitesse et sur les informations, les données géographiques pour l'ensemble des pays membres. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir en information pour aider, pour responsabiliser l'automobiliste. Et le conducteur en général. Ce qui est important, c'est de ne pas non plus les déresponsabiliser, car la technologie, c'est une chose, mais n'oublions pas que derrière un plan, on a un être humain.
Et on rappelle justement que les 8 ministres, dans leur lettre, demandent aussi la reconnaissance à travers toute l'Europe des personnes qui roulent avec des permis retirés. Pour l'instant, la transparence entre les différents pays, la communication n'est pas au top. Merci beaucoup Laurent Hecquet, président d'Automobilité et Avenir, d'avoir été l'invité de RTL aujourd'hui, d'avoir pu dialoguer avec Fabien et avec Noël qui ont composé le 32-10. On marque une pause et ensuite, Laurent Gérard.